BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec Jean-Marc Daniel qui est avec nous pour ce dernier jour de la semaine. Ça va Jean-Marc? Toujours en forme?
Mais absolument, le week-end s'annonce.
Exactement, au sommaire de ce vendredi 9 décembre, alors que les températures vont descendre en dessous de zéro hein, ce week-end. Déplacement aujourd'hui de Bruno Le Maire pour visiter la centrale nucléaire de Penly avec Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF. Site qui illustre parfaitement le défi de notre industrie nucléaire. On va rejoindre dans un instant notre envoyé spécial de Dominique Marie. Le fils aîné du milliardaire français Bernard Arnault, Antoine, a été nommé directeur général de la holding Christian Dior et ce, qui contrôle le numéro 1 mondial du luxe LVMH, nouvelle étape qui vise à renforcer le contrôle familial sur le groupe. On va en parler dans les détails avec Hélène Cornet et avec Arnaud Cadart dans un instant. Et puis, c'est une chaîne de restauration qui a choisi d'être sans plastique, bio, végétal, fait maison, local, sans additifs. Une entreprise de restauration qui s'engage jusqu'au bout. Emma Safko, la fondatrice de Wide and the Moon, sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis à 12h30, la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. On répondra aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et sur cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Allez, tout de suite, c'est journal. Et cette surprise, ce matin, la nomination d'Antoine Arnault en tant que directeur général de la holding Christian Dior et ce holding qui contrôle le numéro 1 mondial du luxe. Avant d'en parler dans notre focus dans 5 minutes avec Arnaud Cadart, on en parle avec vous, Hélène Cornet. Il remplace donc Sinette Oledano à ce poste. Nouvelle étape finalement, Hélène, dans la succession du groupe.
Voilà, c'est vraiment un pas de plus dans la stratégie de Bernard Arnault pour organiser sa succession. Et donc, c'est donc Antoine Arnault, le fils aîné du milliardaire qui a été choisi pour piloter la holding. 45 ans, il est le deuxième de la fratrie et jusqu'à présent, il était directeur de Berluti, administrateur et également directeur de l'image du groupe. Alors, il conserve toutes ses fonctions et il prend également du galon en étant du coup directeur général de Dior SE. C'est vraiment plus que symbolique puisque Dior SE, c'est un petit peu la société historique en fait, celle qui a été décisive à l'origine de la construction de l'Empire. Elle est cotée, elle détient 41% des parts de LVMH et 56% des droits de vote. Donc voilà, on voit bien que la succession du groupe se précise. Déjà en juillet dernier, Bernard Arnault avait modifié les statuts de la société Agache, celle qui pilote vraiment tout le groupe, il l'avait passé en commandite et donc la transformation a été validée hier soir, tout juste, et le capital est désormais à détenu à part égale entre les 5 enfants du groupe. Donc voilà, on a la nomination d'Antoine Arnault, on a la transformation officielle en commandite de la société. Ce qui est sûr, c'est que si Bernard Arnault, le PDG du groupe, n'est pas totalement prêt à passer la main et à prendre sa retraite, le mot succession est lui de moins en moins tabou et que rien n'a vraiment laissé au hasard.
Ça n'a jamais été laissé au hasard, particulièrement dans cette famille. On y reviendra avec vous dans 5 minutes, hein, Jean-Marc Daniel et Arnaud Cadart qui nous attend également. On va y revenir précisément dans notre focus. Merci beaucoup Hélène. Et puis les températures, vous le savez, vont descendre en dessous de zéro ce week-end. Déplacement de Bruno Le Maire aujourd'hui du coup pour visiter la centrale nucléaire de Penly avec Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF, ainsi qui illustre parfaitement le défi de notre industrie nucléaire. Dominique Marie, vous suivez ce déplacement en direct. Penly, c'est la première étape de la relance du nouveau programme d'Emmanuel Macron, hein, Dominique.
Oui, c'est ici effectivement que doivent être construits dans les années à venir deux nouveaux EPR à côté de deux réacteurs qui sont actuellement hors service, mis en maintenance pour travaux des réacteurs et la centrale de Penly où je me trouve. Vous vous apercevez derrière moi un certain nombre de turbines, cette salle de machines que doit visiter tout à l'heure Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui d'ailleurs a été accueilli par une bonne nouvelle ce matin. Et ça, c'est l'urgence, c'est le risque de télestage. Il y a effectivement un certain nombre de centrales, trois qui ont été rouvertes sur la nuit. C'est une bonne nouvelle, mais le ministre est surtout là pour parler avenir. Il a rencontré des jeunes ce matin qui se forment justement à ces métiers, parce que pour ces centrales, on sait que la filière a été en déshérence pendant un certain nombre d'années. Il n'y a plus vraiment de gens qui sont formés, on a perdu des compétences. L'idée, c'est de former, entendez bien, près de 10 000 personnes à partir de 2023, 10 000 personnes par an pour travailler, pour construire, pour maintenir aussi ces centrales, ces futures centrales en fonction. C'est un programme de 6 centrales qui ont été voulues et lancées par Emmanuel Macron. Donc les deux sont construites ici à côté de celle-ci à Penly. Le problème, c'est que certains experts estiment que les délais sont quand même un petit peu serrés. L'objectif, c'est de poser les premières dalles de béton ici à partir de 2027. Ce sera évidemment l'un des principaux dossiers, le dossier le plus prioritaire pour le nouveau PDG d'EDF qui fait en ce moment la visite avec le ministre Bruno Le Maire.
Merci beaucoup Dominique Marie en direct de Penly, donc pour BFM Business avec Étienne Grelet. Jean-Marc, oui, effectivement, on relance la filière, c'est un site où il y a déjà du nucléaire, où va être créé le nucléaire de demain, mais bon, c'est vrai que le timing...
Oui, on voit bien qu'il y a urgence, qu'il y a surtout urgence médiatique. La population, oui, effectivement s'inquiète, la population se demande si le gouvernement prend les bonnes décisions. Il y a toute une polémique sur la façon dont on a conduit la politique nucléaire sur les deux derniers quinquennats. Donc là, c'est un geste symbolique. Ce qu'il y a de frappant aussi, c'est le fait que c'est Bruno Le Maire lui-même qui est là. C'est-à-dire que Agnès Pannier-Runacher était en charge du dossier. Monsieur Béchu, qui s'occupe aussi d'écologie, tout ça, sont un peu remisés, mis en seconde main par rapport à Bruno Le Maire. Ça donne une certaine solennité. Alors après, quand on voit ce qui s'est passé sur l'EPR de Flamanville, oui, on peut se poser des questions sur la date à laquelle effectivement les premiers kilowatts électriques vont apparaître dans les maisons des Français, produits par ce nouveau programme. Donc, on va beaucoup parler de M. Mesmer, évoquer avec émotion les années 70, miser sur l'EPR, faire des visites d'inauguration, mais je ne sais pas quand nous verrons les premiers kilowatts dans nos compteurs Linky.
Et puis, juste un petit chiffre avec vous, Jean-Marc. Marque les dernières prévisions de la Banque de France. La croissance, l'économie qui devrait résister fin 2022, plus 0,1% au quatrième trimestre. Un tout petit signe.
Un petit signe positif, et ce qui est encore plus positif, c'est deux choses. C'est le fait que sur le mois de novembre, donc non plus sur le trimestre, mais sur le mois de novembre, puisqu'on a maintenant des évaluations mensuelles, la croissance a été de 0,2%. Donc il y a une phase un peu de reprise sur ce dernier trimestre. Et puis surtout, dans tous les éléments que donne la Banque de France, il y a le fait que les entreprises qui déclarent avoir des difficultés pour se fournir, qui était un des éléments clés du ralentissement économique cette année, a considérablement baissé. Le nombre d'entreprises est passé de 55% à 31%, 31-36% suivant les secteurs. Et donc, ça prouve quand même qu'une partie des origines de nos difficultés est derrière nous.
C'est plutôt bon signe. Effectivement, ça va dans le sens
bon
de ce que vous nous dites depuis quelques semaines, Jean-Marc.
Oui.
Allez, c'est l'heure de notre focus. Nous sommes avec Arnaud Cadart, gérant action chez Flornois. Merci d'être avec nous. Arnaud, on parlait de cette succession d'Antoine Arnaud, qui a été nommé directeur de la holding Christian Dior. SE qui contrôle le numéro 1 mondial du luxe LVMH. Donc là, on sent que les pions se placent plus concrètement dans la succession de la famille, évidemment, Arnaud Cadart.
Oui, bonjour Sandra, bonjour Jean-Marc. Effectivement, bonjour. Ça fait suite à l'annonce qui avait été faite cet été de changement d'adoption du statut de commandite pour Agache. Et là, effectivement, c'est une avancée supplémentaire en termes de gouvernance familiale du groupe et des intérêts de la famille Arnaud. Vous l'aviez dit, enfin, il n'y a plus de structure opérationnelle chez Christian Dior SE, puisque Christian Dior Couture a été absorbé par LVMH il y a 5 ou 6 ans. C'est un pur rôle de gouvernance qui est confié aujourd'hui à Antoine, et qui est un rôle important, effectivement.
Oui, parce que jusqu'ici, effectivement, il avait des fonctions. Il était chez Berluti, il était directeur de l'image et de l'environnement du groupe LVMH. Est-ce que ça donne un signe que c'est peut-être lui le successeur, finalement, ou ça reste encore à égalité avec les 5 enfants?
Il y a deux niveaux, effectivement. Il y a l'implication des 5 enfants de Bernard Arnault en termes opérationnels. Et après, il y a un rôle un peu plus de gouvernance qui se situe au niveau de Agache et de Christian Dior. Il y a deux enjeux un petit peu différents. Effectivement, on sent que Antoine, mais je pense qu'il conservera quand même ses attributions dans le groupe en termes de patron de la communication du groupe, notamment, et puis, en termes de patron de Berluti et de l'Europiana, je pense qu'il va probablement conserver ses attributions-là, tout en ayant ce rôle un peu de gouvernance d'animation peut-être un petit peu de la holding, qui a un rôle très politique, mais finalement un rôle économique relativement limité. Donc je pense qu'il va conserver ses attributions. Donc il y a deux enjeux aujourd'hui dans le groupe LVMH et dans la relation de Agache et du groupe Arnaud avec LVMH. Bon, bien sûr, il y a assurer la gouvernance familiale, la continuité familiale de contrôle du groupe avec un Bernard Arnault qui a passé 70 ans, qui a besoin de faire ce travail. Encore une fois, il l'a fait avec Agache, avec cette conversion sous forme de SCA plus d'Antoine Arnault. Et puis, Antoine Arnault sera aussi un petit peu à l'œuvre dans les prochaines années pour assurer aussi un autre enjeu important, je pense, pour le groupe, qui est d'assurer le renouvellement managérial au plus haut niveau de LVMH, puisqu'on a les vieux compagnons de route des 20 ou 25 dernières années, ou même 30 dernières années au niveau du COMEX de LVMH, avec des personnalités qui ont passé les 65 ans, qui va falloir aussi poursuivre. Il y a ce renouvellement managérial et peut-être aussi qu'il pourra y participer.
Ouais, et on pense à la suite de toute façon, mais c'est quand même une famille où on n'a jamais rien laissé au hasard, Jean-Marc Daniel.
Oui, c'est une famille qui est une très belle réussite industrielle et depuis plusieurs générations. Déjà le père de Bernard Arnault, qui était un gendre d'ailleurs, qui avait épousé la fille de son patron, avait développé son entreprise. Alors Bernard Arnault, ça a été spectaculaire. Et on voit bien que dans la transmission des entreprises, il y a deux modèles en général. Il y a le modèle familial et il y a le modèle où on va chercher des managers à l'extérieur, tout en restant plus ou moins actionnaire de l'entreprise, en étendant plus ou moins le capital. Il y a énormément d'études, beaucoup de stratégistes ont regardé qu'est-ce qui marchait le mieux. On met en avant les Allemands, où la tradition familiale est forte, on met en avant les Américains, où au contraire, on est plutôt tendance à déshériter ses enfants pour leur dire qu'ils auront à faire leurs preuves. En fait, il n'y a pas de véritable conclusion. Le véritable succès, c'est d'avoir une stratégie familiale où on prépare ses héritiers, et comme on l'a dit, où on fait en sorte que ses héritiers soient bien entourés. C'est-à-dire que gérer une entreprise, c'est quand même de moins en moins une aventure solitaire. C'est aussi de plus en plus une aventure d'une équipe. Et donc, le succès de ce genre d'opération repose sur la capacité à renouveler les équipes et à bien s'entourer. Et là, apparemment, l'intention de Bernard Arnault et de son fils qui monte en puissance, c'est de préparer effectivement une relève générale et une relève de qualité. Donc, on peut espérer que tout ça se terminera bien pour l'entreprise.
Voilà, la mission des prochaines années. Merci Arnaud Cadart d'être venu nous voir dans 60 Minutes Business. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 Minutes Business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et vous revenez, Jean-Marc, ce midi sur les élections dans la fonction publique. C'était depuis le 1er décembre.
Non, c'était le 8 décembre.
C'était le 8 décembre.
Dans la fonction publique, d'accord. C'était hier. Donc, on n'a pas encore tous les résultats en termes de répartition des rapports de force au sein de la fonction publique. On a simplement la participation.
Oui.
Et la participation est tombée en dessous de 50%. On est à 45%. Et le ministre de la fonction publique a commenté ça en disant que il était ouvert à accueillir les nouveaux représentants des fonctionnaires, mais qu'il y avait toute une œuvre à faire maintenant, tout un travail à faire pour rendre la fonction publique plus attractive. Et effectivement, on s'aperçoit que la fonction publique est de moins en moins attractive. Il y a de moins en moins de gens qui se présentent au concours. Il y a des concours, notamment dans l'éducation nationale, qui n'arrivent pas à être satisfaits, saturés. Et il y a de plus en plus de démissions. Donc, est-ce que la gestion des ressources humaines de la fonction publique est à la hauteur des enjeux ?
Vous allez quand même pas me parler de privatisation, Jean-Marc ?
Eh bien, si.
Ben non, quand même. On peut pas tout privatiser. On va avoir une privatisation par jour.
Pas transformer forcément la fonction publique en une entreprise, une société anonyme avec des actionnaires, un conseil d'administration et des dividendes à distribuer. Mais essayer de mettre un peu d'oxygénation dans tout ça en abandonnant le statut de la fonction publique.
Oui.
Alors, le statut de la fonction publique, c'est relativement récent. On fait souvent allusion à Maurice Thorez. En fait, le premier statut avait été mis en place par Vichy. Et le statut actuel a été assez abondamment revu par rapport à la période de la Libération par Anicet Le Pors, qui lui-même était d'ailleurs communiste, comme l'était Maurice Thorez. Mais quand on regarde autour de nous, il y a un certain nombre de pays qui ont abandonné le statut de la fonction publique. Je pense à la Suède, je pense au Danemark, je pense à la Nouvelle-Zélande, qui a fait énormément de réformes sous un gouvernement de gauche. C'est un parti travailliste qui dans les années 80, a complètement remodelé la fonction publique néo-zélandaise avec des exigences d'efficacité et surtout en disant que finalement être fonctionnaire, c'était pas forcément un métier à vie. On pouvait être fonctionnaire un certain temps, puis aller dans le privé, puis revenir dans la fonction publique. Oui. Et cette souplesse, le statut actuel ne le permet pas réellement. Alors pour conclure, je citerai simplement un personnage que tout le monde connaît et dont personne ne sait qui c'est Léon Gambetta. Parce oui. que dans toutes les villes de France et de Navarre, il y a une rue, une avenue ou une place Léon Gambetta.
C'est vrai.
C'était le leader de la gauche sous le Second Empire et ensuite sous les débuts de la Troisième République. Il avait fait un programme qui était le programme de Belleville en 1869 et il était contre la statue de la fonction publique car il disait ce serait une prime à l'oisiveté. Alors je ne vais pas aussi loin que ce grand homme de gauche.
C'est Gambetta qui l'a dit.
Oui, c'est Gambetta qui l'a dit, donc c'est une citation, il faut prendre ça avec des pincettes et tout ça.
Évidemment.
Mais si c'était vrai, si fondamentalement, en dynamisant la fonction publique, en donnant aux fonctionnaires un statut de droit privé, un CDI ordinaire, on n'oxygénait pas tout ça, je pense que si on y réfléchit bien, la réponse est plutôt oui. On va oxygéner tout ça si on abandonne le statut de la fonction
pourquoi
publique.
On va encore recevoir des courriers vous étant adressés, Jean-Marc
je
Daniel.
Je crains, je l'espère.
Allez, c'est l'heure de faire un point Euronext tout de suite. Avec ce petit rayon de soleil en cette mi-journée, Antoine Larigaudry, le CAC 40, qui a décidé de tenter une percée.
Oui, au pire d'une semaine d'un ennui profond, faut quand même bien le dire. Et c'est vrai qu'on signe cette petite hausse de 0,34%. 6670 points, ça pourrait être mieux, puisqu'on a un Eurostock 50 qui gagne 0,45%. Et un DAX à Francfort qui prend 0,64%. Mais il faut dire que la course du CAC 40 est un peu ralentie par un énorme poids dans le sac à dos. C'est quand même Total hein, qui perd 1,2% à 56,12€. Pourquoi ? Bah, ça a été un des faits marquants de cette fin de semaine, c'est cette correction. Alors très très nette et même spectaculaire autour du pétrole. On l'a dit du côté des analystes, on craint des initiatives parlementaires du côté des démocrates américains qui viseraient à forcer en fait les pétroliers américains à accroître leur production pour faire baisser les cours de l'essence. Et ça évidemment, c'est pas très très bon pour les perspectives. Le baril de brut léger américain est toujours proche de ses plus bas annuels, on est sur des plus bas d'un an. 72,20$, 76,66$ pour le Brent de mer du Nord. Du côté des valeurs qui font l'actualité, donc on a parlé de Total, les plus fortes hausses du CAC 40. Plus 2,74 pour Saint-Gobain, leader à 46,45€. On a la Techno qui s'est un petit peu réveillée aussi. C'est un fait marquant aussi. Capgemini plus 1,87 à 171,50€. On a également ST Micro plus 1,5% à 36,98€. En revanche, à la baisse, on a toujours un coup de pompe du secteur auto depuis le début de la journée. Moins 0,6 pour Renault, 33,93€. Stellantis, moins 2,09 à 13,78€. La plus forte baisse, c'est pour Worldline. Moins 4,4% à 40,83€. Le CAC 40, donc sur une hausse de 0,32€. 6668 points. L'euro 1 dollar 0,555 Sandra.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry. Allez rester avec nous dans un instant notre invité. C'est une chaîne de restauration qui a choisi d'être sans plastique, bio, végétal, fait maison, local, sans additifs, tout ce que Jean-Marc Daniel adore. C'est Emma Safko qui est avec nous, la fondatrice de Wild and the Moon. À tout de suite.
BFM Business. 60 minutes business. L'invité.
Notre invitée ce midi, c'est Emma Safko, la fondatrice de Wild and the Moon. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. Bonjour Emma.
Bonjour.
Cette chaîne donc de restauration bio, végétale, locale, sans plastique, sans additifs, sans gâchis. Vous l'avez ouverte il y a 7 ans. Il y en avait une à Paris, une à Dubaï, une antenne à Dubaï. Comment vous est venue cette idée ?
En constatant un peu, on va dire, l'état de la planète. Et j'ai eu envie de faire un peu bouger les choses et de créer une marque, on va dire, collective et engagée. Et l'alimentation me semblait un bon sujet pour essayer de m'engager un peu sur ces sujets d'environnement, finalement.
Parce que là, c'est pas seulement une marque. Je veux dire, c'est une chaîne de restauration. Et on sait à quel point la restauration, effectivement, est entre guillemets mauvaise pour la planète. Les plastiques qui sont utilisés, l'utilisation des produits, leur origine. Il y a tout un tas. En fait, tous les postes sont à améliorer en termes d'environnement, d'éco-responsabilité. Vous êtes-vous attaqué à tous ces postes en même temps, donc dans l'origine des produits, le recyclage des emballages. Est-ce que avoir une chaîne de restauration 100% propre, 100% bonne pour l'environnement, c'est possible ou il y a encore des choses à améliorer?
Il y a encore énormément de choses à améliorer, beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis vraiment partie du constat que l'alimentation dans son industrie, en tout cas, crée et provoque, on va dire, un tiers des émissions de CO2 et qu'on a une vraie responsabilité pour essayer d'améliorer les choses. Et j'avais pas envie de créer simplement un business sur un de ces sujets, mais vraiment sur tous, pour qu'on ait vraiment une entreprise qui fait du bien. Et donc, il y avait des sujets, effectivement, comme le fait d'être complètement végétal, le fait de s'engager aussi sur le packaging, vraiment un autre sujet qui est très important pour moi, c'est le gâchis alimentaire, qui est un sujet global aujourd'hui. Et donc, j'avais envie que cette marque, finalement, porte toutes ses valeurs. Je ne dis pas qu'on est parfait, loin de là, mais en tout cas, on s'y attelle. Le problème du packaging, aujourd'hui, c'est un vrai problème majeur et important. Et on a été jusqu'à trouver aujourd'hui des packagings qui sont donc faits de matière totalement, c'est complètement végétal. Ce qui veut dire que quand ça se biodégrade, ça provoque aucune toxicité dans les sols. Mais tout ça, c'est des challenges qui sont des challenges difficiles parce que c'est forcément plus difficile à sourcer, à trouver. Et puis ça coûte plus cher.
Donc, on va en parler.
Ça, c'est un vrai sujet.
Évidemment, évidemment. Ça tient aussi, pardon, aux partenaires que vous choisissez. On parlait de gaspillage alimentaire. Vous faites appel à Too Good To Go fin de journée
pour
pouvoir redonner, revendre à bas prix ces produits qui ne sont pas utilisés. Comment on contrôle, entre guillemets, justement, en permanence ces partenaires, d'autant que vous êtes à Paris, mais vous êtes aussi à Dubaï et vous êtes aussi
À Amsterdam,
c'est ça. Absolument.
Mais je crois qu'en fait, qu'il faut vraiment réinventer le modèle alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui et vraiment réfléchir complètement en dehors de ce qu'on peut connaître. Nous, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on travaille effectivement avec des entreprises comme Too Good To Go. Mais également, on a décidé d'utiliser 100% de ce qui rentrait dans nos cuisines. Ce qui veut dire qu'on va penser à des nouvelles recettes à base d'écorces d'orange, de fan de carottes.
Oui, une carotte est utilisée entièrement, par exemple.
Entièrement. Quand on presse nos jus, on va récupérer la pulpe des fruits et des légumes, on va en faire de la pâtisserie, des crackers. Donc, c'est vraiment réinventer, je pense, un peu les codes de cette alimentation. Et puis être très soucieux de son inventaire. Ça, je pense que c'est quelque chose de... Nous, on fait vraiment très attention à tout ce qui rentre, tout ce qui sort. On essaye de pas trop remplir nos réfrigérateurs. On préfère à la limite qu'ils soient un peu vides le soir plutôt que de jeter. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont pris en compte.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une marque, c'est un écosystème que vous essayez de créer, Jean-Marc.
Alors, vous avez trois lieux d'implantation. À Paris, vous avez combien de restaurants, en fait?
Alors, à Paris, maintenant, on a 9 restaurants.
Ah oui.
On a 9 restaurants dans Paris. On en a 3 à Dubaï parce que je vivais à l'époque là-bas et c'était un vrai challenge parce que Dubaï, forcément, les fruits et légumes qui poussent de manière locale, c'était pas à l'époque, c'était quasi inexistant. Ouais. Surtout le bio était pas très développé parce que le bio aussi pour nous c'est quelque chose qu'on a intégré dans nos recettes. Et puis 2 à Amsterdam qu'on a ouvert récemment sous forme de franchise cette fois-ci.
Est-ce que vous envisagez d'étendre vos lieux de présence?
J'aimerais.
Et vous aimeriez, mais vous n'avez pas envisagé pour l'instant.
Si, on envisage. On est aujourd'hui, on est en train de continuer de développer Paris, parce que je pense qu'il faut déjà être bien implanté chez soi et assez fort chez soi. Et puis on a développé ouvert notre première franchise, qui est celle d'Amsterdam. On a beaucoup de plans de développement. Je pense qu'il y a un vrai attrait pour cette marque aujourd'hui, et j'en suis ravie d'ailleurs. Mais le développement continue.
Et quand vous dites qu'il y a un vrai attrait, vous avez une évolution de votre chalandise là, votre chiffre d'affaires, votre nombre de clients augmente régulièrement sur un plafond là.
On augmente régulièrement. Quand on a ouvert il y a 6 ans, c'était pas gagné de faire marcher un concept à base de végétaux, de shots de spiruline et de jus de curcuma aux Français.
Oui. J'étais pas sûr que ça prenne.
J'étais pas sûr que
vous y viendrez, Jean-Marc.
Je prends le défi, mais je pense que ce qui est important, c'est de créer cette marque. Enfin, on a créé cette marque, mais je savais qu'en arrivant en France, il fallait absolument que ça reste une marque où vraiment on se fait plaisir, où l'alimentation est bonne, et il y avait vraiment cette clé d'entrée qui était nécessaire pour attirer le plus grand nombre.
Très très rapidement, parce qu'on a plus de temps évidemment, cette façon de fonctionner, toutes ces obligations que vous vous êtes imposées pour faire de votre marque une marque éco-responsable, ça se ressent sur les prix aujourd'hui. Le but, c'est peut-être effectivement de le rendre accessible à de plus en plus de monde. Comment vous allez vous y prendre pour ça?
Alors c'est vrai que du coup effectivement, le bio aujourd'hui et le non conventionnel en packaging, etc., coûte plus cher. Il y a pas doute. Donc évidemment, plus on grossit, mieux on achète, et plus on arrive à rendre. Donc ça c'est quelque chose auquel évidemment on s'attelle. On fait extrêmement attention à tous nos prix et surtout on développe des recettes qui sont un peu plus accessibles pour que justement on puisse devenir accessible au plus grand nombre. Ça c'est très important pour nous. Moi mon rêve, je le dis souvent, mais ça serait vraiment de développer la marque pour qu'elle puisse devenir, on va dire, aussi accessible qu'un Starbucks.
Ben oui, un Starbucks local.
Et engagé. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais au départ, c'est dur parce que les produits sont chers au départ. C'est des produits de très grande qualité. Et donc, du coup, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus.
Mais absolument optimisé. Et c'est vraiment l'idée. Merci beaucoup, Emma Savko, d'être venue nous voir, fondatrice de Wide and the Moon. Jean-Marc, je vous mets au défi. Il faudra goûter les jus Wide and the Moon, les produits White and the Moon avec votre fille qui est déjà convaincue.
Je sais que j'ai quelqu'un de mon côté.
Voilà. Merci beaucoup Emma Savko, à très bientôt. Allez, tout de suite le top du web.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, le moment préféré de Jean-Marc notamment. Et on commence avec le taux du livret A qui désormais, c'est une certitude, va encore augmenter en février prochain, Pierre.
Oui, annonce faite ce matin par le gouverneur de la Banque de France. Alors, il est trop tôt pour donner le nouveau taux, il sera calculé à la mi-janvier. Pariez combien, Jean-Marc?
2,5.
La Banque de France qui a aussi suggéré le nouveau taux des plans d'épargne logement, suggestion reprise par Bercy. Donc, si vous attendez le 1er janvier pour ouvrir un nouveau PEL, votre épargne ne sera plus rémunérée 1, mais 2%. Et pourtant, si vous avez un projet d'acquisition immobilière, votre intérêt, c'est plutôt d'ouvrir un PEL avant cette date. Pourquoi ? Pour bénéficier ensuite d'un crédit à 2,2%.
Voilà. Ah oui. Le crédit est fonction du taux de rémunération, donc...
Le deuxième article le plus lu porte sur les futures versions du Rafale et notamment la version F5, Pierre.
Oui, une version qui devrait donc cohabiter avec le SCAF, prévu lui pour 2040. Une version qui permettra à l'avion de chasse de Dassault de continuer à séduire des clients, y compris l'armée française. Le Rafale F5 pourrait ainsi être doté de missiles subsoniques furtifs, je dis bien furtifs. Et si la vitesse de l'appareil va rester la même, on est à Mach 1.8, les missiles qu'il portera pourraient être, eux, hypersoniques. On a l'impression quand même, Jean-Marc, que Dassault n'entend pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Oui, je crois d'ailleurs que Dassault avait été très échaudé au début par les difficultés à vendre le Rafale, et puis après il y a eu une excitation. Enfin, il a trouvé son public, c'est le cas de le dire, en tout cas ses clients. Mais ce que je trouve le plus frappant dans tout ça, c'est encore une fois l'intérêt de nos internautes, auditeurs, téléspectateurs pour ces dossiers. Et je trouve que c'est rassurant parce que ce sont des dossiers déterminants, surtout vu l'évolution actuelle de ce qui se passe en Europe.
Allez, et puis on finit avec cette nouvelle rassurante pour les deux prochains jours. Deux réacteurs qui ont été remis en service par EDF aujourd'hui, Pierre.
Oui, et la France peut donc désormais compter sur la production de 40 réacteurs dans ses centrales nucléaires, 40 sur 56, soit une puissance totale de 30 gigawatts. Et Jean-Marc, est-ce que vous savez ce qui est au programme de l'agenda de Bruno Le Maire ce vendredi?
Ben, il visite.
Ben oui, il visite. Voilà. Il est à Penly, on en a parlé, évidemment.
Il visite la centrale de Penly.
Voilà, il est avec le nouveau PDG
d'EDF. Et on a quand même un petit peu l'impression que EDF a vraiment mis le paquet pour que Bruno Le Maire puisse avoir le sourire.
Voilà. Oui, mais enfin, je conseille quand même aux auditeurs téléspectateurs de maintenir la tendance sur l'achat des pulls.
Pour le moment, pour cet hiver
en tout cas.
Merci beaucoup, merci messieurs. Allez, passez un bon week-end. Merci Pierre, merci Jean-Marc. À lundi, à midi, dans un instant, BFM avec vous. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la famille Arnault renforce son contrôle sur LVMH. Antoine Arnault est nommé directeur général de la holding qui contrôle le premier groupe mondial de luxe en remplacement de Sidney Toledano. Le fils de Bernard Arnault a aussi été nommé vice-président du conseil d'administration. En juillet dernier, la holding familiale Agache a été transformée en société en commandite qui facilite la transmission au sein d'une entreprise familiale. L'économie française résiste. Malgré l'inflation, le PIB devrait progresser de 0,1% au quatrième trimestre. Selon la Banque de France, portée par une hausse de l'activité dans l'industrie, les services et le bâtiment. Pour l'ensemble de l'année, l'institution confirme sa prévision de 2,6% de croissance. Et pour l'année prochaine, elle sera faiblement positive. Et si une récession devait se produire, elle serait temporaire et limitée. C'est ce que nous a dit ce matin le gouverneur de la Banque de France. Bruno Le Maire, au chevet du nucléaire. Ce matin, le ministre de l'économie visite la centrale de Penly avec le nouveau patron d'EDF, Luc Rémont. Emmanuel Macron veut relancer la filière avec la construction de 6 nouveaux EPR d'ici 2040. Cette nuit, 3 réacteurs en maintenance ont redémarré, portant à 40 le nombre de réacteurs en service sur 56. En tout cas, l'appel à la sobriété énergétique semble avoir été entendu par les particuliers et les entreprises, puisque la consommation d'électricité continue de reculer. Elle a baissé de 10% le mois dernier par rapport à novembre 2021 selon EDF. Total Energy se retire du géant gazier russe Novatek, un désengagement qui a un coût. Le groupe annonce 3,7 milliards de dollars de dépréciation pour le quatrième trimestre. Et puis en Chine, c'est une conséquence de l'assouplissement des restrictions sanitaires. Foxconn rouvre son usine de Zhengzhou. Le site était confiné depuis 56 jours. Il s'agit de la plus grande usine d'iPhone au monde. Elle emploie 200 000 personnes. On termine par un mot des marchés. Le CAC évolue dans le vert à la mi-journée, plus 0,3%, 6 669 points. Et puis notez parmi vos rendez-vous de la journée sur BFM Business, Céline Lazorte, la fondatrice du groupe Litchi, sera l'invitée de Frédéric Mazella ce soir à 19h dans Les Pionniers, Sandra.
Merci Stéphanie Collo.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous et nous répondons à toutes les questions que vous nous avez posées. Et on voit bien que la pénurie de talents vous pose beaucoup de problèmes en ce moment parce que les entreprises cherchent des solutions. Bonjour Claude Calmon. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet de recrutement Calmon Partners. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions, les formules les plus efficaces peut-être pour que les entreprises arrivent à séduire les candidats aujourd'hui. On l'a vu que effectivement l'équilibre a changé, hein, que la force a changé de main. Alors, est-ce que de quels outils, de quelle boîte à outils par exemple disposent les entreprises aujourd'hui? Il y en a plusieurs pour attirer les talents.
On voit beaucoup de créativité de la part des entreprises, que ce soit en France, à l'international. Il y a les congés illimités, les semaines de 4 jours, des espaces de travail qui changent, le travail à distance, le travail de façon très très différente. Il n'y a pas vraiment de règles, on a très très peu de recul. Puisque on va dire que tout ça s'est mis en place à la sortie du Covid. On ne sait pas encore exactement ce qui fonctionne. Une chose est sûre, c'est que les entreprises n'ont jamais autant fait appel à des sociétés comme la nôtre pour les accompagner dans ces problématiques de recrutement.
Alors peut-être qu'une des solutions pour ne pas manquer de talent, c'est de retenir déjà ses salariés. C'est peut-être là-dessus aussi que les entreprises doivent travailler, Claude.
Alors il faut déjà les attirer, effectivement. Il faut après les retenir. On voit beaucoup d'ouverture. Il y a plein de sujets qui peuvent permettre aux gens de rester. Alors évidemment, on parle du salaire, c'est, je dirais, le premier réflexe, mais ça fait pas tout. Les conditions de travail sont extrêmement importantes et les gens restent plus volontiers quand ils se sentent évidemment bien dans leur bureau. Donc beaucoup de sociétés ont fait le choix d'investir assez lourdement dans des nouveaux bureaux physiques avec plus ou moins de capacité, plus ou moins de modernité. Et je crois que c'est déjà un très bon point. Et après il y a tout le reste, l'intéressement des salariés au capital des sociétés. De plus en plus de start-up grossissent et recrutent et donc permettent aux salariés d'être impliqués sur le long terme, ce qui est assez important.
Est-ce qu'on a réussi à identifier aujourd'hui les secteurs qui sont les plus touchés par les pénuries?
Alors, on l'a beaucoup vu avec le Covid, les métiers de service à la personne, tout ce qui était aussi restauration, hôtellerie, les métiers physiques. Il y a eu beaucoup de départs et pas assez de retours. Donc, il y a vraiment un trou d'air là pour le coup. On manque de ressources. Là où après, d'autres secteurs ont réussi à se rattraper.
On a effectivement des salariés qui se posent des questions. On a cette question ici. Les générations Y et Z ont une approche différente au monde du travail, effectivement, suivant l'âge de ces personnes. La quête de sens change, ce que les gens attendent du travail change. Comment on les séduit ?
Alors, on a vu beaucoup d'études à ce sujet. Certaines ont avancé que la motivation de l'argent n'était plus le trigger, pardonnez-moi l'anglicisme, numéro un. C'est la quête de sens qu'on retrouve aussi très très régulièrement. Réussir à intégrer ces nouvelles générations dans un projet moyen long terme, leur faire comprendre pourquoi ils sont là et leurs actions du quotidien, aussi spécifiques soient-elles, doivent être comprises dans un ensemble beaucoup plus grand que ce qu'ils font juste tous les jours quand ils arrivent au bureau. Une relation au management beaucoup plus proche, c'est un peu terminé ce côté du je suis juste un petit numéro, je viens d'arriver dans une société et j'ai pas de contact avec la direction. Ce sont des générations qui ont besoin de sentir ce rapprochement avec les décisionnaires.
Alors, parmi les arguments qui peuvent convaincre peut-être les talents de rejoindre votre entreprise, on en parle depuis très souvent, il y a le télétravail, mais dernièrement, il y a aussi cette semaine de 4 jours qui est en train d'être testée, d'être mise en place. Est-ce que c'est une bonne manière, un bon argument pour attirer les talents ?
En tout cas, c'est une idée. Encore une fois, on a très peu de recul sur ce sujet-là. Une entreprise qui connaît déjà une pénurie de talents, si en plus ça doit passer à la semaine de 4 jours, ça, c'est compliqué. Beaucoup de sociétés qui doivent récupérer leur niveau de productivité d'avant Covid, donc ça veut dire que ça complexifie aussi les choses. On l'a vu assez rapidement au Royaume-Uni à la sortie du Covid, la Belgique l'a mis en place. Il n'y a pas de raison que des entreprises ne le mettent pas en place en France, il n'y a rien qui les empêche légalement. Maintenant, je crois que le gouvernement avait annoncé que ce ne serait pas imposé, ce qui est, je trouve, plutôt une bonne chose.
Ce serait plutôt testé sur une certaine période, c'est ça ?
C'est ça, et il faut laisser le choix aux entreprises, puisque toutes les économies ne sont pas non plus faites pour ce modèle-là.
Oui, effectivement, Lydie nous dit toutes les industries ou toutes les équipes ou tous les jobs ne sont pas faits effectivement pour être calqués sur cette semaine de 4 jours, par exemple.
Surtout si, à la base, vous manquez de personnel. Ça va forcément augmenter le volume horaire des autres salariés. Et on est dans une période où je pense que, justement, il ne faut pas trop pousser sur le bouton de du burn-out, des heures à rallonge, du travail difficile. Donc, il faut que ça puisse être au choix et à l'appréciation des chefs d'entreprise.
Oui, parce que la décision, ce serait plutôt une demande, effectivement, du côté des salariés, mais les difficultés sont plutôt du côté du chef d'entreprise qui va devoir, par exemple, ne pas contacter ses fournisseurs du vendredi au dimanche, où ça nécessite finalement une organisation qui est particulièrement différente. Finalement, pour le chef d'entreprise, c'est quand même pas anodin.
Ah non, c'est évident. Il me semble qu'en Belgique, le chef d'entreprise doit justifier son refus. Donc ça veut dire que ça met le chef d'entreprise dans une position très délicate. Réorganiser son temps de travail sur 4 jours, quand encore une fois on doit rattraper des niveaux de productivité qui étaient fortement en baisse pendant quasiment 2 ans, c'est pas simple. Alors, on peut, quand on est en plein emploi, qu'on sait qu'on a assez de salariés, on peut réorganiser son temps de travail. Il faut laisser du temps aux entreprises pour s'adapter à ça. Je sens pas une véritable demande d'un point de vue des salariés. En tout cas, les candidats avec qui on travaille nous demandent plutôt du travail à distance. La semaine de 4 jours commence à arriver dans les têtes, mais c'est pas encore une lame de fond.
Le début pour le moment. Vous restez avec nous, Claude. On accueille évidemment, comme tous les vendredis, Mehdi Ramdani pour la chronique LinkedIn. Mehdi, vous avez sondé, vous avez publié les grandes tendances qui vont marquer l'année à venir, d'après des experts, Mehdi.
Oui, alors que l'horizon économique s'assombrit, on a profité pour demander aux membres de LinkedIn quelles étaient leurs principales préoccupations sur un plan professionnel pour 2023. Alors, sur près de 6000 professionnels qui nous ont répondu cette semaine, 51% s'inquiètent de la stagnation des salaires, 33% redoutent une hausse du stress au travail et 9% craignent pour leur emploi. C'est donc les salaires qui sont la principale préoccupation pour un professionnel sur deux. On ne fait que et encore et toujours plus sans que les salaires augmentent proportionnellement, s'inquiète Dorian, chargé d'affaires. Les salaires ne sont pas assez attractifs, confirme Ryan, étudiant en alternance, ce qui n'arrange pas la pénurie de talents dont vous parliez justement avec votre expert. Une piste pour redonner un peu d'air aux employés, c'est Aurélien qui l'a fourni. Il est gérant d'auto-école. Il propose de baisser les charges salariales. Cela permettrait de redonner du pouvoir d'achat sans menacer la survie des entreprises confrontées à une explosion des coûts, dit-il.
Alors, il y a beaucoup Oui, après, il y en a qui ont peur de passer une année difficile en termes de pression au travail, Mehdi.
Oui, de pression, de burn-out. Hein, là aussi, vous venez de l'évoquer. En fait, un tiers des répondants anticipent une année difficile avec une vraie augmentation en fait, de cette pression. C'est ce que nous dit Johan, qui est chef de projet. Pour lui, la baisse des recrutements liée à l'incertitude économique va forcément entraîner une hausse du volume de travail, ce qui dégrade la qualité de vie au quotidien. Et puis à cela va s'ajouter un autre motif. C'est tout simplement le manque de visibilité à moyen terme, ce que nous dit Sébastien qui travaille lui dans le BTP.
Et du côté des chefs d'entreprise, on dit quoi alors pour l'année 2023, Mehdi ?
Alors, sans surprise pour eux, hein, ce sont les conséquences de la crise énergétique qui sont redoutées avec un risque bien réel pour l'emploi. Avec la hausse des coûts de l'énergie, Franck, qui est dirigeant dans la restauration collective, pense que des plans sociaux sont à prévoir. Mmh. Et puis en première ligne, on retrouve les petites entreprises. Pour Eric, qui conseille justement des patrons de TPE-PME, beaucoup pourraient ne pas avoir l'endurance nécessaire pour supporter les surcoûts énergétiques. Malgré tout, petit motif de réjouissance, certains chefs d'entreprise tentent de rester optimistes, hein, car cette crise, selon eux, devrait être passagère. Rémi, qui travaille dans l'immobilier, anticipe 6 mois de difficultés, tandis que de son côté, Bruno nous rappelle que les économistes tablent sur un retour à la normale, ou presque, dès 2024.
Voilà, les inquiétudes pour l'année 2023, effectivement, ça semble assez logique. Merci beaucoup, Mehdi Ramdani, pour cette chronique LinkedIn que vous retrouvez tous les vendredis. Inquiétude, Claude, on l'a dit. Il y a la quête de sens, effectivement, mais il y a les salaires. Hein, vous voyez, 51% qui s'inquiètent de la stagnation des salaires.
Oui.
C'est quand même une donnée très intéressante pour retenir ces talents, ce dont on parlait tout à l'heure.
Alors oui, le problème c'est que toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'augmenter en permanence les salaires, ça c'est certain. Dans certains domaines, nous on est plutôt focalisé sur l'environnement des services financiers. C'est une industrie qui a vu ses salaires exploser depuis les 5 dernières années, de par l'arrivée aussi de concurrents internationaux, anglo-saxons, donc du Royaume-Uni et des États-Unis.
Ça a toujours été aussi dans le domaine financier.
Oui, mais il y a une véritable accélération. Donc ces gens-là sont un petit peu moins concernés par ces sujets d'inflation et j'irais d'environnement un peu anxiogène où tous les jours on nous dit qu'on gagne un petit peu moins. Mais pour le chef d'entreprise, augmenter les salaires au vu des charges qu'il doit couvrir, c'est loin d'être facile. Surtout quand on est aussi dans un environnement où on parle beaucoup de dettes, de remboursement de PGE. La situation de trésorerie des entreprises n'est pas simple non plus. Les conditions de levée de fonds et d'emprunt sont de plus en plus compliquées. Donc oui, pour beaucoup de chefs d'entreprise, les prochains mois vont être clés.
Dont le recours aux primes, hein, qui a été beaucoup encouragé chez nous. Merci beaucoup, Claude Calmont, d'avoir répondu à nos questions. Fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners. Vous restez avec nous, BFM avec vous continue dans un instant. On recrute.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, la suite de l'émission et notre partie recrutement. On commence avec vous, Stéphane Deuge. Vous êtes cofondateur d'Imagino, également directeur général. Quelle est la mission d'Imagino qui a été créée il y a 5 ans maintenant?
Il y a 5 ans. Imagino, sa mission, c'est d'aider les entreprises à rassembler la donnée client. Mm-hmm. Parce que la donnée qu'on a sur les clients, elle est éparpillée dans le site web, dans le système de caisse qui est dans les magasins, dans le système de fidélisation. Et quand l'entreprise, elle veut communiquer avec son client, elle veut simplement savoir ce dont il a besoin, comment on peut l'aider, elle n'a pas forcément l'information. Donc nous, on aide à rassembler cette donnée pour pouvoir agir dessus.
Alors, vous travaillez avec quel type de clients?
Alors, vraiment, toutes les industries. Donc, on travaille bien sûr beaucoup avec les gens de la distribution, le groupe Leclerc, par exemple, Intersport. On travaille avec la presse également. Mm-hmm. On est content d'avoir Le Monde parmi nos clients, mais également le magazine Elle, par exemple. Ensuite, l'industrie du tourisme, du transport, RATP Dev, donc une filiale de RATP avec qui nous travaillons, ou le groupe B&B Hotel.
Oui, donc ça
c'est très, très large.
Secteurs,
parce que c'est un besoin que toutes les entreprises ont.
Et particulièrement ces dernières années, on l'a dit, vous avez été créé en 2017 et on peut dire que la donnée, entre guillemets, a énormément évolué, a énormément été multipliée ces dernières années. Comment vous a évolué votre activité ?
Notre activité, elle est en forte croissance parce qu'effectivement, il y a à la fois ces données qui explosent en nombre, hein, de plus en plus de systèmes, de plus en plus d'informations, la nécessité de s'en occuper, et puis l'environnement légal qui a changé également avec le RGPD qui impose à toutes les entreprises de savoir ce qu'elle a stocké et pourquoi faire. Donc on intervient sur ces sujets-là aussi.
Alors vous êtes une quarantaine d'employés actuellement et vous ouvrez une dizaine de postes, c'est ça ?
Oui, bah, ils sont ouverts en permanence. En fait, on a une croissance. On a la chance d'avoir une croissance à trois chiffres, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. On va bientôt ouvrir une filiale en Angleterre et aux États-Unis. Mm-hmm. Et pour ça, on est en train de faire notre premier tour d'investissement. Donc on en embauche quasiment continue sur tous les postes.
Alors détaillez-nous ces postes parce que
alors,
c'est important.
Je vais vous parler au moins de deux parce que finalement, on embauche sur tous les postes de la gamme éditeur logiciel, entre guillemets, c'est-à-dire de la fabrication du logiciel. Mm-hmm. Sa documentation, sa mise en exploitation, son marketing, sa vente. Deux postes qui sont, je pense, très intéressants pour la jeune génération, mais également la plus ancienne aussi. Le premier poste, c'est tout ce qui touche au métier du développement de l'application. Donc, on embauche des développeurs et on embauche tout particulièrement des développeurs qui sont à même d'aider l'exploitation du logiciel. Ce sont des métiers qui s'appellent DevOps, hein, où on va interagir avec les technologies que nous utilisons. Ouais. C'est du Golang. Golang, c'est un langage moderne hein, de programmation avec du React JavaScript d'une part et puis son exploitation c'est du Docker dans des machines Kubernetes.
Alors, je ne vais pas vous cacher que les développeurs, on entend des entreprises chercher des développeurs en permanence, c'est une denrée extrêmement rare. Vous cherchez quel profil en particulier et pourquoi viendrait-il chez Imagino?
Alors quel profil en particulier? Écoutez, tous les profils qui répondent finalement aux technologies que je viens de citer. Tous les gens qui ont fait soit du Golang, soit du Kubernetes, voilà, sont des gens qui vont nous intéresser. Pourquoi viendraient chez nous? Je vous le dis, Imagino, c'est une start-up en forte croissance et j'ai eu de la chance, étant entrepreneur, de vivre plusieurs aventures de même type. Hein, et donc, Imagino, c'est ma quatrième société, en fait.
Oui.
Deux ont connu de très beaux succès, Absilog et Neolan. Neolan, je l'ai emmené de 0 à 350 employés, on l'a vendu à Adobe, on opérait dans 9 pays dans le monde. Voilà, et c'est de la technologie française qu'on exportait à 60% de notre chiffre d'affaires à l'époque. C'est la même aventure que l'on veut reconstruire sur Imagino. Et donc, ce que je vends finalement aux gens qui nous rejoindraient, c'est une aventure collective. On va faire ça tous ensemble avec des récompenses collectives. Quand on fait des objectifs, on emmène tous les salariés 4 jours avec leurs conjoints dans des destinations magiques. L'année dernière, on a fait la Martinique.
Oui.
Mais avec notre précédente société, on avait fait l'Islande, le Brésil, Saint-Martin. Enfin, on a fait des choses absolument formidables.
Donc, mais voilà, bon c'est collectif. Travailler chez vous, une bonne ambiance de travail.
Bonne ambiance de travail, mais c'est pour les gens qui aiment l'aventure collective.
Bon. Et la localisation des postes, vous êtes à Cachan.
On est basé à Cachan.
Mais est-ce qu'il y a du télétravail pour tous ces postes?
Alors, un peu télétravail, mais on privilégie justement l'aventure collective et le travail ensemble. Mm-hmm. Donc on fait du télétravail, j'ai envie de dire, d'intérêt immédiat. Quelqu'un a un problème à la maison, il y a une livraison qui passe, évidemment le travail est autorisé pour ces situations, mais on va dire, on va pas l'encourager. On encourage plutôt les gens à venir au bureau parce que cette aventure, elle se vit aussi autour de la machine à café. Elle se vit parce qu'on gagne des deals.
Oui, oui.
Chaque fois qu'on gagne un deal, on va taper un gong. On a un gros gong d'un mètre de diamètre qui résonne dans tout l'immeuble et on va le taper avec grande joie.
Bon, très bien. On postule sur votre site internet.
Hein. Directement.
Imagino, voilà. Imagino. Merci beaucoup, Stéphane Dehoche. On est vendredi. De temps en temps, on accueille ces métiers un peu insolites. Bonjour, François Millet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'expérience client de Vacances Camping Paradis.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est?
Ah,
vous cherchez
sujet.
Quoi?
Mais en fait, oui, on a lancé depuis 3 ans, depuis 2020,
oui.
Les Camping Paradis, les vrais Camping Paradis inspirés de la série télévisée.
On va dans le camping, on vit la série.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a tous les marqueurs de la série, donc la convivialité, bien évidemment, qui est propre à la série, mais aussi la scénographie, les tenues des animateurs, le tour de golfette avec les propriétaires de camping. On vit vraiment cette même expérience que dans la série.
Vous en avez 73 là actuellement, c'est
73,
ça? Il y en aura bien plus l'année prochaine.
Bien plus, on va monter pratiquement à 100 campings, sachant qu'en 3 ans, on a une progression énorme.
Vous embauchez énormément, plus de 300 postes qui sont ouverts. Vous embauchez quoi? Quel poste?
Parce qu'à côté de mon poste de directeur de l'expérience client, je me gère aussi la Camping Paradis Academy.
Oui.
Et donc cette académie forme des animateurs pour rejoindre après les vrais Camping Paradis. Et donc il y a 3 postes principaux qui sont les responsables d'animation, les animateurs polyvalents généralistes, adultes-enfants, et une spécialité aussi très orientée sur l'enfance avec les animateurs enfants.
Mais alors, on a aussi des postes réceptionnistes, surveillants de baignade, agents de propreté. Là, on est effectivement complètement dans la vie d'un camping.
Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est vrai que ce sont des petites équipes, des équipes familiales où tout le monde fait un peu tout. Et ce qui est génial un peu dans, complètement d'ailleurs dans ce métier-là, c'est que même les débutants sont les bienvenus. Nous, ce qu'on cherche après, a fortiori, c'est vraiment du savoir-être. C'est 80% de savoir-être. La technique, on va l'apprendre, on va leur apprendre, on va les accompagner, on va les faire grandir, les faire monter en compétences. Mais c'est vraiment ça, on veut du savoir-être. Oui. Si les gens sont heureux, conviviaux, ils sont les bienvenus chez nous.
Donc pas de problème pour accueillir et à la fois des juniors, des jeunes, comme on trouve souvent dans les métiers du tourisme, et des gens en reconversion, par exemple.
En reconversion, et puis bien sûr aussi des confirmés. Mais ce qu'on veut, c'est du savoir-être. S'ils ont le savoir-être, le reste, on peut tout leur inculquer.
Vous cherchez aussi des techniciens de maintenance, des analystes, des développeurs. Ah ben voilà,
encore des développeurs.
Réseau de franchise. Bon là, c'est un tout autre univers, effectivement. Oui. La localisation des postes.
Alors, pour les animateurs, la formation va se passer dans le sud, à côté de Perpignan, pendant 2 mois. Et après, ils iront pendant 6 mois sur un des campings paradis, et avec une continuité de leur carrière chez nous. Et puis, après, il y a des postes, bien évidemment, au siège de Camping Paradis. Et puis après, sur les différents sites, un peu partout en France.
Mais alors, parlez-nous en 2 minutes quand même de cette académie, ces 2 mois de formation dont vous venez de nous parler. Effectivement, on doit apprendre l'esprit du Camping Paradis et de cette expérience. Mais enfin, il y a bien des petits trucs qui font que ça diffère d'une autre formation sur d'autres campings.
Oui, parce qu'on veut vraiment inculquer notre ADN, notre proximité. C'est vrai que la promesse qu'on fait chez Camping Paradis, c'est de se baser sur nos 4 piliers fondateurs qui sont la convivialité, le partage, l'émerveillement et la bienveillance. Et donc, tout ça, on va leur apprendre, on va les accompagner pour vraiment que ça puisse correspondre à l'image qu'on veut donner à nos clients.
Bon, là, on est dans le contact avec le client, donc j'ose à peine vous poser la question sur le télétravail.
Ah, il n'y en a pas beaucoup.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on achète une ambiance, là aussi, du collectif.
On n'est pas vraiment distanciel.
Bon, alors, on postule pour ces postes à camping au pluriel, paradis.com/info/recrutement. François Millet, directeur de l'expérience. Vous le vendez bien, expérience client vacances camping paradis. Il y en aura 100 à la fin de l'année.
Là, pour début 2023. Avril, on approchera les 100 à partir du début avril pour la saison.
Voilà, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Lundi, nous parlons comme tous les lundis du droit du travail. Vos questions, nos réponses, nous y répondrons avec Lorraine Goumeau. À la fin de la semaine prochaine, nous recevons aussi le médiateur des entreprises Pierre Pellouzet, qui répondra à toutes les questions que vous vous posez sur les aides auxquelles vous avez droit en tant qu'entrepreneur. Cette émission est à retrouver en podcast et en replay. Je vous souhaite un très bon week-end sur BFM Business.
60 minutes business, toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.